RFI 8h30 à Paris, 6h30 en temps universel.
RFI Matin.
Le journal avec Xavier Besson. Bonjour Xavier.
Bonjour Julien, bonjour à tous. L'actualité africaine et cette nouvelle illustration des tensions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Kigali annonce quitter la CEAC, la communauté des États d'Afrique centrale, organisation dont le Rwanda aurait dû prendre la présidence tournante hier, mais ce n'est pas le cas. Kigali met en cause directement son voisin congolais. Dans ce journal également, la RDC aussi, où le président Félix Tshisekedi s'inquiète d'une recrudescence des braquages à main armée à Kinshasa, la capitale. La Banque mondiale qui reprend le financement de projets en Ouganda. Il avait été suspendu il y a 2 ans quand Kampala a adopté une très sévère loi contre les homosexuels. Et notre dossier ce matin vous parlera d'amour à l'occasion du début demain des rencontres dramaturgiques de Kinshasa. Une réunion où tout ne s'est pas passé comme prévu hier à Malabo, 26e sommet ordinaire de la CEAC, la Communauté économique des États d'Afrique centrale. Mais ce ne sont pas des décisions ordinaires qui ont été prises, puisque la présidence tournante qui aurait dû revenir au Rwanda est restée entre les mains de la Guinée équatoriale. Kigali qui proteste, qui annonce même quitter l'organisation et qui dénonce le rôle de la République démocratique du Congo. Précision et explication avec Amélie Tullet.
Le Rwanda proteste ainsi contre la décision prise ce samedi à Malabo. La conférence des chefs d'État et de gouvernement a en effet choisi de prolonger d'une année supplémentaire la présidence de l'organisation par la Guinée équatoriale et donc par le président Obiang Nguema. La conférence a différé à un autre moment le passage de la présidence tournante au Rwanda, peut-on lire dans le communiqué final du sommet. En réaction, Kigali déclare, je cite, « déplorer l'instrumentalisation de la communauté économique des États de l'Afrique centrale » par la République démocratique du Congo avec le soutien de certains États membres. Fin de citation. Selon un commissaire cité par l'agence France-Presse, les représentants de la République démocratique du Congo auraient fait valoir qu'ils ne pourraient pas se rendre aux activités de la communauté s'ils étaient accueillis par le Rwanda. Dans un communiqué du ministère rwandais des Affaires étrangères, Kigali dénonce la remise en cause de ses droits garantis par les textes constitutifs de la CEAC et pointe, je cite, l'échec de l'organisation à faire respecter ses propres règles.
Amélie Tullet, et je vous rappelle que le principal point de discorde entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, c'est le soutien documenté de Kigali à la FCM23, cette rébellion qui contrôle aujourd'hui de larges pans des provinces congolaises du Nord et du Sud Kivu, dont les deux capitales provinciales, Goma et Bukavu. La RDC, par ailleurs, où le président Félix Tshisekedi appelle à la mobilisation des services de sécurité contre la recrudescence des braquages à main armée est le sujet qui préoccupe donc en haut lieu, a même été évoqué cette semaine en Conseil des ministres à Kinshasa, la correspondance de Pascal Moulégois.
Samedi vers 13h, un pick-up transportant un ressortissant chinois et son chauffeur quittaient une banque par les boulevards Lumumba à Kinshasa. À proximité d'une concession industrielle, 3 hommes armés à mouton ont braqué les véhicules et tiré sur les conducteurs congolais. La scène captée par la vidéosurveillance a été partagée sur les réseaux sociaux, alimentant l'inquiétude face à l'insécurité croissante. Quelques jours plus tôt, à 1 kilomètre de là, une quinzaine de bandits a attaqué en pleine journée une chambre froide vendant des produits vivriers dans la commune de Lemba. Les braquages deviennent quasi hebdomadaires à Kinshasa. Les auteurs, souvent en moto, agissent au vu et au su de la population sans crainte, filmés parfois par des témoins. Face à cette recrudescence, le président Félix Tshisekedi appelait à une mobilisation générale des forces de sécurité pour une riposte, je cite, vigoureuse, coordonnée et durable. Parmi les mesures annoncées, plus de patrouilles, une surveillance accrue dans les zones sensibles et un renforcement visible des effectifs policiers et militaires dans les quartiers à risque et zones commerciales. Pascal Moulégois, Kinshasa, RFI.
RFI, 7h34 à Kinshasa, 9h34 à Kampala, l'Ouganda, où la Banque mondiale a annoncé cette semaine une reprise de ses financements, eux qui avaient été suspendus après la promulgation en 2023 de la loi dite anti-homosexualité, l'une des lois les plus répressives de la planète. 2 ans plus tard, la Banque mondiale dit avoir travaillé, notamment avec le gouvernement, pour mettre en œuvre des mesures qui empêchent la discrimination dans les projets qu'elle finance, mais Mais qu'en dit-on sur place? Écoutez l'avis de Frank Mugisha, militant historique des droits LGBT en Ouganda. Il est le directeur de l'organisation Sexual Minorities Uganda et il réagit de manière prudente aux annonces de la Banque mondiale.
Je crois comprendre qu'ils ne reprennent pas les financements dans leur intégralité. Ils ont également pris des mesures de prévention. Nous ne sommes pas satisfaits à 100% de ces mesures, car la communauté n'a pas été totalement impliquée lors des consultations. En outre, les mesures de prévention ne mentionnent pas explicitement la communauté LGBT. De plus, il y a eu une sorte de plaidoyer pour la non-application de la loi anti-gay, mais nous constatons qu'elle est toujours appliquée. Nous souhaitons également savoir comment se fera le contrôle de ces financements. Comment est-ce que nous saurons qu'il y a un suivi adéquat et que la Banque mondiale veille à ce qu'il n'y ait pas de discrimination? Nous attendons donc de voir. C'est un sentiment mitigé. Bien sûr, c'est bien pour le pays. Il y a d'énormes dépenses liées aux réfugiés et notre système éducatif manque énormément de financement. Mais d'un autre côté, nous allons continuer à suivre tout cela de près, surtout en ce qui concerne les mesures de prévention pour nous assurer qu'il n'y a pas de discrimination.
Frank Mugisha, militant des droits des minorités sexuelles en Ouganda, joint par Charlotte Cossé. Faut-il y voir un réchauffement des relations entre la Guinée équatoriale et l'Afrique du Sud? On apprend qu'à Malabo, le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema vient de gracier les deux ressortissants sud-africains qui avaient été arrêtés en 2023, puis condamnés à 12 ans de prison pour trafic de drogue. Leur arrestation faisait suite chronologiquement à la saisie par la justice sud-africaine de plusieurs biens du vice-président équato-guinéen qui est aussi le fils aîné du chef de l'État. Au Botswana, la production de diamants va tourner encore un peu plus au ralenti. Le géant minier Debswana, qui est détenu à parts égales entre le gouvernement et le groupe De Beers, annonce une nouvelle réduction de sa production. Le groupe invoque en fait le ralentissement de la demande mondiale de diamants, nous explique Nicolas Feldman.
En avril déjà, le géant minier avait suspendu ses opérations dans deux de ses usines. Ce sont désormais les mines de Joaneng au sud et d'Orapa dans le centre qui sont mises à l'arrêt au moins pour 3 mois. Debswana veut ainsi faire des économies sur ses coûts de fonctionnement. L'objectif est de réduire la production de diamants de 16% pour la porter en 2025 à 15 millions de carats. Dans un communiqué, Debswana explique naviguer prudemment dans des conditions de marché difficiles. L'entreprise invoque d'une part la menace de nouveaux droits de douane venus des États-Unis, mais c'est surtout la baisse mondiale de la demande de diamants depuis 2 ans qui justifie ses choix. L'année dernière, le chiffre d'affaires du géant minier botswanais a chuté de 50%, un manque à gagner qui a des répercussions directes sur l'économie dans un pays où l'industrie du diamant représente près d'un quart du PIB. Après une année 2024 dans le rouge, l'économie du Botswana devrait de nouveau se contracter cette année, selon les prévisions du FMI.
Nicolas Feldman, drapeaux en berne et festivités suspendues. La Zambie a débuté une semaine de deuil national après le décès ces derniers jours de l'ancien président Edgar Lungu. Il est mort en Afrique du Sud et sa dépouille mortelle devrait être rapatriée mercredi prochain à Lusaka où un hommage national lui sera rendu. Ce sera l'un des temps forts de l'actualité. La semaine prochaine, on se projette à demain à Nice dans le sud de la France où les dirigeants mondiaux vont se pencher sur le sort des océans. Tout cela dans le cadre de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. Et c'est toute la planète qui est concernée. En Afrique de l'Ouest, les communautés de pêcheurs qui sont sur les côtes tirent la sonnette d'alarme sur l'état d'épuisement de l'océan. Écoutez par exemple le témoignage de Chenor Ba, capitaine du port de Tombo, c'est en Sierra Leone.
Nous avons beaucoup de soucis aujourd'hui, mais surtout, il n'y a plus de poissons et nous avons du mal à survivre. Maintenant, pour trouver du poisson, on est obligé de brûler beaucoup d'essence. On part tôt le matin, mais ce n'est pas avant 10 ou 11 heures qu'on arrive à trouver un endroit avec du poisson. Il y a beaucoup plus de bateaux qu'avant et certains utilisent des techniques de pêche destructrices pour l'environnement qui empêchent les poissons de se reproduire. Ici, la pêche est la seule option. On n'a pas d'usine, on n'a pas d'autres secteurs d'activité. La seule chose que les gens savent faire, c'est pêcher. Donc, les jeunes qui sont nés ici se lancent automatiquement dans la pêche. Aujourd'hui, les choses se sont modernisées. Pourtant, là où autrefois on dépensait peut-être 20 litres, 30 litres d'essence pour aller attraper du poisson, c'était possible de faire des affaires. Mais aujourd'hui, il faut peut-être dépenser 100 litres, 150 litres de carburant pour arriver au même résultat.
Tchernorba, le capitaine du port de Tombo en Sierra Leone. Et notez que demain, RFI vous proposera une édition spéciale sur ce sujet des océans. Ce sera après le journal de 8h, heure de Paris. Dans l'actualité ce matin également, le Mali, après deux attaques subies cette semaine de la part de membres de groupes armés djihadistes, l'armée malienne se retire du camp militaire de Boulkessi, une importante caserne dans le centre du pays. Hier, plus aucun soldat n'était sur les lieux. Au Liberia, l'ancien président de la Chambre des représentants est en détention. Jonathan Fonati Kofa, inculpé avec plusieurs autres élus pour l'incendie de décembre dernier au Congrès à Monrovia. D'après le chef de la police, il existe des preuves solides contre lui. Et puis au Ghana, c'est un ancien ministre des Finances qui est lui dans la tourmente. Interpol vient d'émettre une notice rouge, c'est-à-dire une demande pour le localiser et l'arrêter, contre Kenneth Oforiatta, figure de l'administration de l'ancien président Nana Akufo-Addo, qui est accusé d'avoir retiré des avantages personnels de ses fonctions.
RFI à Kinshasa, 105 FM.
Et l'on retourne donc en République démocratique du Congo avant de retrouver Julien Coquel-Rouem dans 3 minutes. Et pour notre dossier ce matin, Kinshasa, la capitale congolaise où débute demain la 4e édition des rencontres dramaturgiques de Kinshasa. Au programme, des lectures de textes qui ont tous un point commun, le thème de l'amour. Et pour RFI, Aurélie Bazara Kibangula a assisté aux répétitions au tarmac des auteurs, qui est une salle de théâtre en plein cœur de Kinshasa.
Vous êtes tombé comme ces foutus murs et avec vous, vous vous êtes émietté, pulvérisé.
Sur scène, lecture de l'histoire générale des murs, une œuvre du dramaturge congolais Sinzo Anza qui confronte l'existence de deux femmes non seulement séparées par un mur, mais aussi par leurs origines. Anta Sifokabala, comédienne, incarne une femme d'un quartier populaire.
C'est une dame qui n'a pas assez de moyens, qui essaye d'élever son fils dans des conditions qu'elle peut. J'aime bien ce personnage parce que malgré qu'elle vit à côté de quelqu'un qui a beaucoup d'argent, en fait, qui est bourgeoise et qui la regarde de haut, mais elle accepte ce qu'elle est. Elle vit sa vie.
Dans cette œuvre, les dialogues sont vifs et percutants. Pour Noël Kitenge, metteur en scène, la pièce interroge avec force un sujet d'actualité, le vivre ensemble.
Le mur qui constitue un obstacle pour nos vies, un obstacle pour nous savoir vivre ensemble, mais lorsque le mur se brise même de peu, on se rend compte qu'on sait voir un peu de l'autre côté, qui a aussi de l'humanité, de l'humanisme aussi de l'autre côté.
Les rencontres dramaturgiques de Kinshasa, c'est au total 3 lectures d'œuvres majeures qui interpellent sur notre rapport à l'autre et à l'amour. Aurélie Bazara Kibangula, Kinshasa, RFI.
Et pour Israël Chipampa, qui est le directeur artistique du lieu qui accueille ces lectures, il assure que ces performances permettent à la fois de mettre en lumière toute la puissance des textes, mais aussi de former les jeunes comédiens.
Les rencontres dramaturgiques de Kinshasa est une tribune qu'on offre aux artistes autour des écrits. Ce sont des jeunes comédiens qui lisent pour la pièce de Pomra, la pièce de Shakespeare. Alors pour la texte des Sinzo, on a mélangé. Il y a 2 jeunes et 2 artistes confirmés qui lisent. Parce que l'idée, c'est pas que les jeunes travaillent qu'entre eux, mais qu'ils puissent aussi rencontrer des professionnels qui peuvent leur servir des modèles, des guides. Il y a beaucoup d'étudiants qui viennent frapper à notre porte parce qu'ils n'ont pas suffisamment de temps de pratique. Et ils viennent frapper à notre porte pour faire des stages. L'idée, c'est à chaque fois qu'ils entament une vie professionnelle, qu'ils savent comment on aborde une pièce de théâtre, comment est-ce qu'en tant que comédien, j'ai fait pour proposer un personnage. Le tarmac des auteurs, je pense que c'est devenu plus un lieu où la transmission est essentielle dans notre mission.
Et ces rencontres dramaturgiques de Kinshasa, c'est à partir de demain donc dans la capitale congolaise, Kinshasa, où il est maintenant 7h44 et vous êtes avec Julien Coquel-Rouem.